9h22 minutes. Notre invité ce matin est médecin, chef du service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis depuis la crise, depuis cette pandémie, c'est sûr que c'est une des figures dominantes qu'on a vues dans les médias pour nous expliquer ce qu'il vivait à l'hôpital, ce que cette crise voulait dire. Docteur François Marquet est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Votre livre, ce sont des carnets de pandémie que vous présentez. Puis je vous posais la question tantôt. Ça a été dicté à chaud. Donc, c'est vraiment les impressions des différentes vagues qu'on a connues.
Effectivement, du début à la fin du livre, c'est vraiment que des épisodes qui se suivent. Et le but, c'est vraiment que les gens nous accompagnent, marchent avec nous autres dans nos pas. Et on ne sait pas au début du livre où on s'en va. Et ça, c'est important. Ça n'a pas été écrit en disant, bon, ben c'est un récapitulatif ou un résumé. Non, c'est vraiment à chaud. Et c'était en fait dicté alors que je marchais souvent de l'hôpital vers mon domicile.
On sent dès le début, d'abord, c'est un gros point d'interrogation, c'est-à-dire les premiers cas qu'on a vus en Europe, premier cas qui arrive à l'hôpital, je pense que c'est un négatif finalement oui. En bout de ligne. À quel moment ça s'est accéléré, puis là vous êtes dit, on ne sait pas où on s'en va avec ça, là?
Ben, en fait, on savait où on s'en allait, on savait simplement pas l'envergure que ça allait avoir. Quand les premiers cas se sont mis à rentrer, ça s'est mis à déferler, là, c'était un après l'autre. Mais il faut comprendre que les premiers cas étaient plus occupants qu'à un moment donné, quand on était rendu meilleur et qu'on était capable de gérer des plus grands nombres. Et ça, c'est un aspect qui est important. Au début, le fameux faux cas qu'on a eu a paralysé l'hôpital complètement parce que tout le monde était tellement sur la défensive et après on a appris à vivre avec la maladie, on a séparé l'hôpital, on avait entendu parler de ça, les hôpitaux dans les hôpitaux. Une fois qu'on a eu trouvé par où on devait les faire circuler pour que tout fonctionne dans l'hôpital, c'était plus facile.
Bon, en lisant votre livre, j'ai pris quelques notes. Il y a quelque chose où j'ai accroché. Vous dites à un moment donné, au début, on a divisé les hôpitaux. Alors, l'hôpital général juif et Maisonneuve-Rosemont sont devenus les hôpitaux COVID, où on envoyait les patients. Et là, tu te dis, mais Pierre, on connaît l'état des lieux, là. Pourquoi on a choisi un hôpital vétuste, pas adapté, avec des salles communes, comme hôpital COVID?
En fait, c'est une question que je me pose encore. Et honnêtement, pour être précis, Sacré-Cœur aussi avait été désigné très, très rapidement. Bon, il y a des choses qui ont joué en notre faveur. On était prêts. Dans le sens où on avait fait des modifications et, de façon étonnante, le fait qu'on ait des aires ouvertes, ça permettait de fermer complètement des zones et de les rendre COVID positives. Est-ce qu'il y a des décisions rapides qui ont été prises? Est-ce qu'il y avait un grand schéma? Celle-là, j'aimerais ça me la faire expliquer. Quand on avait des beaux gros hôpitaux tout neufs avec des chambres d'isolation, ça nous a tous un peu surpris. Il n'y a pas grand monde à Maisonneuve qui s'attendait d'être désigné en premier comme ça.
Mais l'autre chose qui est mise en lumière aussi, puis on peut inclure les centres de soins de longue durée, c'est pas normal qu'on ait laissé un hôpital comme Maisonneuve, Rosemont, se détériorer avec des promesses reportées d'année en année. Pas beaucoup de gens qui se préoccupaient du manque de personnel dans les centres de soins de longue durée. Il y a tout un pan, là, du côté vétuste du réseau de la santé, qui, jusqu'à cette pandémie, était pas mal sous le radar. Là.
Effectivement, et malheureusement, l'Est de Montréal est souvent une population qui est mal représentée, qui n'a pas une grosse voix au chapitre, hein, ça n'a pas des immenses industries. En fait, le CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal est le plus gros employeur, ça donne une idée. Là. Je pense que c'est des gens, effectivement, qui ont été délaissés. Et comme il n'y avait pas d'urgence, pourquoi on mettrait de l'argent dans ces infrastructures-là alors qu'on a d'autres projets qui vont amener un meilleur rayonnement? C'est juste que là, ils se sont fait attraper. Là.
Vous êtes devenu une vedette, veux pas, là, durant cette crise, parce que on le voit avec d'autres médecins, Dr. Weiss et plusieurs autres. Là. C'est arrivé comment? Une entrevue, puis les autres se sont enchaînés, puis là, vous étiez comme partout.
C'est exactement ça, mais avec une certaine volonté... J'ai vraiment fait vraiment exprès pour accepter un maximum d'entrevues parce qu'il y avait tellement de désinformations. Il y avait même à l'hôpital, j'entendais tellement de folies. Je me disais, mais il y a comme peu de gens qui disent la vérité. Et je voyais beaucoup de mes collègues qui étaient très, très, très occupés. J'étais très occupé, mais j'ai voulu faire cet effort-là de dire oui parce que je sentais le besoin qu'il y ait des voix qui disent un peu là, ce qu'en était de la science puis des mesures à faire, et pour un peu expliquer ce qui était annoncé par le gouvernement qui générait souvent beaucoup de questions.
Et là, vous avez réalisé ce que c'est que d'être connu. puis de devenir, entre guillemets, une vedette, là, c'était vrai dans des contacts avec le public qui vous interpellait de façon assez familière, on va dire.
Oui, c'est une réalité. Cela dit, 99,9% des gens sont très gentils, mais c'est vrai que ça surprend toujours un peu parce que ces gens-là, ils pensent qu'on se connaît bien, puis c'est vrai que ça donne cette impression-là, mais des fois, quand t'arrives dans un stationnement, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive sur toi comme une fusée, tu te dis, il vient-tu me frapper, là, lui? Tu sais, il y a cette question-là, mais ça demande une adaptation. On le fait pas pour ça, mais oui, c'est comme un effet.
Mais vous étiez pas quelqu'un, là, un grand consommateur de nouvelles, les téléjournaux, l'actualité.
En fait, j'étais un anti-consommateur.
Un anti-consommateur.
Oui, les bulletins de nouvelles me rendaient... mal à l'aise. J'aimais pas commencer mes journées sur des mauvaises nouvelles sur lesquelles j'avais aucune prise. Hein? On se fait annoncer ce qui se passe dans un autre pays, puis ça fait juste mettre ta journée à l'envers. Alors que là, il s'est passé deux choses. Un, j'étais dans l'action. C'est que c'était pas, pour moi, je faisais partie de la solution. Je faisais pas juste subir la nouvelle. Et aussi, et ça, je l'avoue humblement, je pensais beaucoup que le journalisme, c'était du sensationnalisme, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont le souci du travail bien fait. Et ça a bouleversé ma vision du milieu. Et je pense que c'est en positif. Hein, comme de quoi, à travers toutes nos nouvelles expériences, on peut en sortir des choses très positives.
Mais vous avez vécu quand même des épisodes, et je pense aux réseaux sociaux, là, tous les gens qui se sont exprimés, qui expliquaient finalement ce qu'on vivait, par rapport aux thèses complotistes, puis je me souviens entre autres aussi de la fameuse photo là où on voit que des lits inoccupés, Jeff Fillion à Québec. Bon. Comment vous avez vécu, là, j'allais dire, de devenir une cible pour bien des gens, là, comme faisant partie du vaste complot de l'État contre les citoyens?
Bon, ça fait pas plaisir. Il y a personne qui aime ça. Honnêtement, j'avais deux stratégies. La première, c'était de ne pas être sur les médias sociaux. Donc, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas subi chaque petite attaque un peu vicieuse qui peut arriver comme d'autres collègues. J'ai eu mon lot de problèmes, mais on se dit que ça fait partie des conséquences. Et moi, je le voyais d'une autre façon. Je me disais, plus ils sont agressifs, en réalité, c'est que moins ils ont d'arguments, plus on va les toucher, plus ils se sentent acculés au pied du mur. Sinon, ils m'ignoreraient. Et donc, c'était pour moi un peu un baromètre à quel point là, mes interventions pouvaient être positives pour la population.
C'est pas venu vous perturber, ça vous a pas trop affecté?
Ça m'a pas fait plaisir. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont réussi à venir me chercher, là? Mais surtout pas au point de me dire qu'il faut que j'arrête puis qu'on va me taire et qu'on va laisser gagner les trolls. Ça n'a jamais eu une chance de fonctionner.
C'est intéressant dans le livre parce qu'on voit l'évolution du genre de patients. Les plus âgés, les plus vulnérables. Et là où je pense que vous avez eu un rôle très important à jouer, c'est de dire, OK, là, tout le monde pense que des gens de 85 ans et plus meurent. Il y a d'autres patients plus jeunes qu'on va intuber. Puis intuber quelqu'un, ça a des conséquences, là, pas juste au moment où on le fait, mais sur la reprise d'une certaine normalité. C'était important de le dire que c'était pas juste des gens en fin de vie qui étaient touchés par la COVID.
Effectivement, et aussi qu'il y a des états des fois qui sont pires que le décès. Hein, je pense à beaucoup de personnes qui ont encore un combat très important, qui étaient dans la première vague, qui ont survécu, que leur qualité de vie est rendue misérable. Mais il y a plusieurs de ces personnes-là qui ont peut-être eu un sort qui est un peu pire des fois que la mort. Là.
Est-ce que, durant cette crise-là, vous avez dû réfléchir à une certaine forme de triage des patients qu'on a vus en Europe. Et je sais qu'il y avait des plans là, qui avaient été faits par le ministère de la Santé, mais est-ce qu'au niveau de l'hôpital, Maisonneuve-Rosemont, vous étiez déjà en train de vous dire, OK, là, s'il nous arrive tant de patients de plus, ça veut dire qu'on va faire certains choix basés sur un certain nombre de critères.
Ce qui est important de savoir, c'est que dès le début qu'on a commencé à penser intellectuellement à ça, le message était très clair que ça serait quelque chose qui serait coordonné au point de vue provincial. Les hôpitaux avaient clairement des instructions de ne pas essayer d'improviser quelque chose ou de se démarquer en essayant. Donc, pour nous, si on approchait de cette limite-là, on transférait des patients dans les autres hôpitaux et tout était coordonné par le gouvernement. C'est que cette partie-là était absolument pas susceptible d'être improvisée. Aucun hôpital pouvait dire, OK, ben moi, je suis plein, je commence à trier, ce qui est une très, 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 très bonne chose.
Mais c'était quoi le débat éthique? Ça aurait été quoi le débat éthique pour un médecin comme vous?
Ben au début, c'était pas un si gros débat éthique parce que faut se le dire, les gens mouraient, on n'était pas très bon pour les sauver. Là où ça devenait difficile, c'était plus dans la deuxième, la troisième vague où on savait qu'on était capable de les sauver. Le vrai débat éthique, c'était est-ce qu'on allait, par exemple, juste inclure les gens COVID là-dedans ou l'ensemble de la population d'un hôpital? Parce qu'il y a des gens qui ont un cancer très avancé, que finalement, le patient plus jeune COVID aurait une chance. Donc, c'était l'ampleur du triage. Mais le vrai, vrai, vrai problème, et pour moi, c'était la brisure dans la confiance. Quand on va à l'hôpital, c'est pour se faire soigner. Il y a personne qui va à l'hôpital en se disant, hey, peut-être qu'ils vont me tirer à la plug quand je vais arriver. Cette confiance-là intrinsèque dans une société et son système de santé, si on allait là-dedans, on la brisait. Et c'est sans compter que faut pas oublier qu'il y a des gens, pour des critères sociaux ou religieux, ont une perception de l'arrêt de traitement qui est fondamentalement différente, du Québécois de souche. Et ça a amené des débats interminables. Il faut pas se le cacher. Il y avait rien là-dedans qui protégeait vraiment les médecins, qui allaient prendre les...
Légalement,
c'est un gros problème. Tout le monde disait, oui, il va y avoir quelque chose, on va vous protéger, mais il n'y avait rien sur la table. Contrairement à l'aide médicale à mourir, qui est parfaitement encadrée, et que quand on reste à l'intérieur du cadre, tout va bien aller pour le médecin. Là, on s'enlignait dans quelque chose de très, très flou au niveau de la protection légale.
Notre invité, Dr. François Marquis, donc chef du service des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont, le livre, mais carnet de pandémie. Je veux regarder un autre angle. Si vous dites, dans le livre, on a vécu plein de choses, il y a eu de l'improvisation, la santé publique, c'était pas toujours clair, ça aurait mérité peut-être d'être plus précis, mais vous voulez pas qu'on fasse une chasse aux sorcières, mais vous voulez en même temps qu'on retienne des leçons de cette expérience qui va avoir duré, quoi, 24 mois minimum, là?
Effectivement. C'est tellement facile, en rétrospective, de commencer à pointer les gens. Habituellement, quand il y a des erreurs, c'est des erreurs de système qui vont se manifester à travers une personne. Retrouvons la cause des erreurs. On en a parlé tout à l'heure, comme le désinvestissement en santé, le manque de personnel, toutes ces choses-là. Et regardons vers le futur et solidifions notre système de santé. On sait par où l'eau est rentrée dans le solage, comme on dit. Bon, ben maintenant, on va aller boucher ces trous-là, on va comprendre ce qui s'est passé et on va se rendre moins vulnérable à une prochaine pandémie ou à un prochain problème là, sociétal. Et ça, je pense que c'est là que l'énergie doit être mise, non pas à commencer à trouver des coupables, parce que ça va être tellement tentant, mais tellement tentant de pointer des gens puis de dire « Ah, c'était leur faute, on s'en lave les mains, on a une coupe de bouc émissaire, puis on continue dans nos mauvaises habitudes. »
Mais en même temps, la santé publique, c'était pas toujours clair. Les points de presse, la fameuse grande messe de 13 heures, vous le dites dans le livre, là, on les écoutait, puis on se disait « Wow, pas tout à fait ça qui arrive sur le terrain, là. »
Bien, effectivement, coordonner quelque chose d'aussi gros était pas facile. J'aurais vraiment pas aimé être à leur place. C'est certain qu'en choisissant de faire des communiqués où on allait dans l'ultra-détail pour essayer de montrer de la transparence, ça rendait la chose extrêmement difficile à comprendre. Il y a des moments de la grand-messe où la plupart des médecins qu'on écoutait ça, on se disait ouais, c'est un peu compliqué ce qu'ils sont en train d'expliquer là pour le citoyen de base là, qui commence à comprendre l'épidémiologie. Je pense que ça aurait pu être gagnant d'avoir des petites bouchées et de promettre aux gens de leur dire, par exemple, écoutez, on va passer à travers le concept. On va se prendre 3 jours pour comprendre ça parce que, habituellement, c'est un cours d'université. À vouloir être absolument transparent, je pense qu'ils ont noyé beaucoup les gens dans le détail. Et ça, je pense que, justement, cherchons pas le coupable, mais dites-nous que la prochaine fois qu'on va avoir des messages de la santé publique, on va vraiment découper la connaissance pour qu'elle soit facile. La vulgarisation, hein, c'est ça le défi de la vulgarisation. C'est de prendre des gens qui sont pas experts et de leur donner assez de base pour qu'ils puissent commencer à apprendre plus, puis à s'approcher de l'expertise. Mais les premières étapes, faut y aller tranquillement. On n'apprend pas à faire de la bicyclette en se lançant dans le Tour de France, là. Ça nous prend des petits trous sur le côté, puis on est tous passés par là.
Vous avez eu la COVID.
Ben, en fait, c'est une grande question.
Ben, oui, j'ai vu qu'il y avait des tests contradictoires, là.
Mais officiellement, j'ai eu la COVID, et c'est important que ça soit officiellement, parce qu'il y a un devoir de sûreté. Il n'était pas question de prendre le risque de dire « Oh non, mais il est probablement safe, on va l'envoyer travailler » parce que cette erreur-là aurait pu coûter beaucoup plus cher au système que de dire « Regarde, on n'est pas certain qu'il est positif, on va le sortir par prudence, puis il fera beaucoup d'administration. » Ce qu'il a fait, ça n'a pas été des vacances. Mais ça, c'est la façon de faire. Quand on est en pandémie, on va du côté prudent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, ils ont peut-être été un peu intenses de me sortir de mon travail, tout ça. » Non, c'était la bonne chose à faire. On se doit d'avoir un devoir de prudence.
Vous avez vu les patients en COVID. Vous avez vu c'était quoi l'impact, la réalité de la COVID. Quand vous voyez des gens qui refusent de se faire vacciner, qui ne veulent rien savoir, et même dans le réseau de la santé, là, votre réaction, c'est quoi?
Ben, ma réaction a beaucoup changé. Au début, c'était genre, bon, ben, ils sont mal informés. Mmh. Ces gens-là, on est allé les chercher, on les a informés. Parce qu'il faut comprendre que la masse d'antivax, c'est beaucoup réduite. Hein? Mais les irréductibles qui restent, pour moi, ça reste du niveau un peu du fanatisme. Je suis pas sûr qu'ils sont mobilisables, je suis pas sûr qu'on peut les convaincre. Rendu là, je pense que la bonne décision, c'est d'essayer de protéger le reste de la population, puis d'empêcher ces gens-là d'être des vecteurs puis de la contamination.
Mais comme médecin, là, puis je parle souvent des médecins, puis je leur pose la question, là. Vous avez différents types de patients qui sont à l'hôpital pour différentes raisons. Vous voyez arriver quelqu'un là, qui va mobiliser une équipe, un lit, des ressources. C'est quelqu'un qui a refusé la vaccination puis qui est peut-être là à l'hôpital pour 2-3 semaines. Êtes-vous en maudit? Vous n'êtes pas supposé, là.
Non, mais en fait, il y a une façon très, très simple de l'expliquer. Imaginez là que vous avez votre voisin, OK? Puis vous ne vous entendez pas bien avec votre voisin, puis ça fait des années qu'il vous fait du trouble. Puis là, tout d'un coup, il a vraiment besoin d'aide, puis il vient vous dire, ben là, je m'excuse, mais j'ai besoin d'aide. Ton cœur a juste le goût de l'envoyer promener, mais ta tête va dire, sois un bon citoyen, il a vraiment besoin d'aide, va l'aider. C'est cette même dualité-là. Au début de la pandémie, c'était relativement facile parce qu'il n'y avait pas de vaccin, donc tout le monde était un peu une victime. Maintenant, c'est un peu comme quelqu'un qui a décidé de jouer à chicken avec un 10 roues puis qui s'est planté. Là. Le problème, c'est que il y en a beaucoup qui arrivent en même temps, ces gens-là. Puis ils viennent quand même en différentes catégories. Il y a des gens qui sont encore dans le déni, là, qui disent que ça n'existe pas, que ça n'existe pas. Dans leur monde, eux autres, dans leur construit, la COVID n'existe pas. Mais il y en a qui disent non, je ne le prendrai pas. J'en ai eu un qui a dit, bon, mais les soins intensifs, c'était pas si pire. Je suis prêt à revenir. Et ça, oui, ça vient nous chercher, puis c'est extrêmement difficile.
Comment ça va se passer en Maisonneuve Rosemont, dans votre unité à partir du vendredi, avec l'application du décret? Est-ce qu'il va y avoir du délestage, des corridors de service? Avez-vous une idée de ce qui va arriver?
En fait, chez nous, c'est probablement les soins intensifs, on est tous vaccinés.
Ça règle le cas.
C'est que ça règle essentiellement le cas. Il n'y aura pas d'impact sur notre unité. L'urgence, c'est à peu près la même chose. Les autres, il y a d'autres ailes, il y a d'autres départements où ça va être plus compliqué. Ça va demander de coordonner le réseau, mais encore là, c'est la bonne chose à faire. Il faut rendre le système de santé sécuritaire pour ses usagers. Et au lieu d'avoir des gens qui disparaissent, qui reviennent, qui sont absents, là, on va avoir des absences plus prolongées, mais ça va être des absences qu'on va pouvoir comprendre et faire nos horaires, faire notre délestage, toutes ces choses-là. C'est pas idéal. Je préfère encore que tout le monde soit vacciné. Mais il faut s'adapter et c'est ça l'affaire. Il faut s'adapter.
Docteur Marquis, merci beaucoup d'être venu. Docteur François Marquis, donc, son livre « Mes carnets de pandémie ». Pause 9h40. Au retour, Mario Pelchat est avec nous.